avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras, je me repose. Tous mes fardons, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence.
Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
Je plie le genou. J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence.
Théo Radio.
Bonjour. Un rare événement écologique réjouit les spécialistes de la Méditerranée. Ils s'enthousiasment de ce qu'ils nomment une énorme découverte pour la biodiversité. Il s'agit d'une zone de fonds marins sur la côte orientale de la Corse, jonchée de plus de 18 millions de nids. Oui, de nids, non pas d'oiseaux bien sûr, mais de poissons. Plus exactement de picarelles, en latin Spicaras maris. Longtemps passés inaperçus, ces nids sont situés sur des fonds meubles, près d'une précieuse prairie sous-marine à vaste herbier de Posidonie. Jointifs, circulaires, mesurant chacun 55 cm de diamètre, ils donnent à ces fonds un aspect lunaire. À perte de vue, ce sont des plaques géantes d'alvéoles sur des zones qui totalisent une superficie de 135 hectares. Chaque nid est occupé par un mâle qui mesure une vingtaine de centimètres. C'est lui qui a soigneusement creusé et nettoyé sa cuvette avec sa nageoire caudale. Caractéristique morphologique de ce sparidé, corps allongé, taches noires rectangulaires sur le flanc et couleur dorée. Quand il est prêt à se reproduire, notre mâle arbore des lignes longitudinales bleues électriques. Ce genre de poisson, c'est courant dans cette famille, naît femelle et, pourvu que Dieu lui prête vie, devient mâle en grandissant. Avouons que le mâle, comme souvent dans la nature, est bien plus beau que la femelle, car il lui faut la séduire en nageant au-dessus de son nid pour la convaincre de descendre et y pondre. Ses œufs, qu'il aura fécondés, c'est lui qui les surveillera avec soin. Car le grand paradoxe de ce genre de rassemblement, c'est qu'il est à la fois protecteur et risqué. Protecteur car les picarelles sont si nombreux que chacun a pas mal de chances, en se fondant dans la masse, d'échapper aux prédateurs. Risqué parce que justement, une myriade de prédateurs, gros ou petits, lorgnent les œufs et leurs parents. Il faut préciser que ces nids sont éphémères. Élaborés en quelques semaines, ils s'effaceront après la saison de la reproduction pour réapparaître un an plus tard dans la même zone. Les premiers nids bordent l'herbier par 37 mètres de profondeur, certains étant même creusés à l'intérieur. Les plus lointains sont à 50 mètres de profondeur. Découvertes dans la découverte, ces zones ont un intérêt écologique majeur qui dépasse l'espèce concernée. Parmi les nombreux prédateurs qui profitent de l'aubaine figurent des espèces menacées d'extinction. Et l'on pense que la nidification annuelle des picarelles pourrait avoir un rôle clé dans leur survie. La découverte fait penser à la fameuse maxime de Louis Pasteur « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Car c'est en cherchant l'ange de mer, un requin qui ressemble à une raie et compensé presque disparu, que les plongeurs naturalistes sont tombés par hasard sur ce phénomène d'une ampleur unique au monde. On compare son bénéfice écologique à ceux de la célèbre remontée des sardines en Afrique du Sud. Un poisson des plus ordinaires a donc un mode de reproduction absolument extraordinaire. L'existence de la biomasse que produit ces rassemblements, non seulement des 18 millions de mâles dans leur nid, mais aussi des femelles et immatures beaucoup plus nombreux qui nagent au-dessus, et pour leurs prédateurs, mais aussi pour tous les amoureux de la nature, une bonne nouvelle.
Écoutez KTO Radio, il est 20h. Tout de suite, les vêpres à Notre-Dame de Paris.
Viens à mon aide,
Seigneur, à notre secours, que ma prière devant toi s'élève, comme l'encens, élément pour l'offrande du soir, que ma prière devant toi s'élève.
Et son foudre. saisit ta grande puissance et prit possession de ton règne. C'est tes serviteurs, les saints, les prophètes, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands.
Nous te rendons grâce, ô notre Dieu.
Maintenant voici le salut et le règne et la puissance de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, l'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu.
Nous te rendons grâce, ô notre Dieu.
Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Renonçant à l'amour d'eux-mêmes jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, cieux, et vous, habitants des cieux.
De la lettre aux Hébreux. Jésus, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion en dehors de l'enceinte de la ville. Eh bien, pour aller à sa rencontre, sortons nous aussi en dehors de l'enceinte en portant la même humiliation que lui. Car la cité que nous avons ici-bas n'est pas définitive. Nous attendons la cité future. En toutes circonstances, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi qui sort de nos lèvres en l'honneur de son nom. Et nous entendons un motet d'un psaume, « Seigneur, ne me compte pas ce péché, fais-moi miséricorde », composé par Purcell.
Thank you.
Maintenant, Dieu notre Père, nous te prions, convertis-nous à la loi nouvelle de ton Christ. Proclamer la bonne nouvelle, il a passé parmi nous en faisant le bien. Il a nourri les foules au désert, il s'est livré dans le pain et dans le vin. Il a guéri les malades, il a pardonné les péchés. Il a maîtrisé la mer et les vents, il a prié pour la foi de Pierre. Il a pleuré sur Jérusalem, il a ressuscité Lazare. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Bénissons le Seigneur.
écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Bonjour à tous, alors je vais donc vous parler des fondements dogmatiques de la mission, et donc je voudrais reformuler le sujet de manière très prosaïque en disant pourquoi évangéliser. Et je voudrais dire en introduction que je crois que c'est pas une question qui est purement didactique, puisqu'il m'est arrivé comme vicaire de paroisse d'être dans une petite paroisse qui avait vraiment peu de paroissiens, et un groupe de paroissiens a demandé au curé s'il serait pas opportun que toute l'activité de la paroisse soit davantage tournée vers la mission, pour que la paroisse tout simplement puisse continuer à vivre. Alors on a réuni le conseil pastoral, qui était composé de gens à la fois de bons chrétiens, de gens cultivés, qui ont discuté entre eux, et pour une fois on s'est mis très vite d'accord. Enfin, ils se sont mis très vite d'accord au bout de 5 minutes, et ils nous ont dit en substance « Nous voulons bien évangéliser pour sauver la paroisse, mais nous ne comprenons pas le sens de la mission » parce qu'on nous a toujours dit que les non-chrétiens pouvaient être sauvés. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la théologie de la mission, mais en étudiant un petit peu en vue de cette conférence, j'ai consulté un certain nombre d'écrits, et il me semble que ces deux questions, la mission et la question du salut des non-chrétiens, sont des questions qui sont très intimement liées depuis plusieurs siècles, et que le Concile Vatican II donne une avancée que je crois importante en reprenant ces deux questions ensemble et en les fondant sur une théologie de l'Église, comme le point qui permet d'avoir la bonne perspective. Le Concile Vatican II a d'abord traité de la mission à propos donc de l'Église, dans sa constitution sur l'Église, et a voulu aussi qu'il y ait un décret spécifique, le décret sur l'activité missionnaire, consacré donc à la mission. Et dans ce décret, les pères conciliaires ont demandé que le premier chapitre soit consacré aux principes doctrinaux. Donc vous voyez, c'est vraiment notre sujet. Et le père Congar, qui était un des rédacteurs de ce texte, rapporte qu'il y a eu deux sujets qui étaient débattus dans cette commission qui préparait le texte. Première question, c'était l'extension de la mission. Certains voulaient dire que l'Église tout entière est missionnaire, mais les pères qui appartenaient à des congrégations missionnaires se disaient « ce n'est pas suffisant, il faudrait que notre activité propre, nous qui quittons tout pour aller à l'autre bout du monde, là où l'Église n'est pas encore implantée, soit reconnue comme telle ». Alors le Concile va résoudre un petit peu la question en disant que si unique est la nature de la mission, elle diffère selon ses conditions. Et plus tard, Jean-Paul II dira qu'il y a une seule activité missionnaire, mais que la mission ad gentes, ou les missions, quand on va planter l'Église là où elle n'est pas encore fondée, est la réalisation exemplaire de la mission de l'Église. Mais le deuxième débat, celui qui m'intéresse maintenant, c'est ce débat que j'ai mentionné au début, à savoir pourquoi la mission. On voulait commencer, dans un texte qui serait récapitulatif, à dire la mission a d'autres raisons que le salut, parce que tous peuvent être sauvés par la puissance de Dieu. Et donc là encore, ce sont les pères issus des congrégations missionnaires qui ont dit « c'est pas suffisant, c'est un petit peu décourageant ». Alors, le numéro 7 de ce décret ad gentes que je vais commenter avec vous donne 3 raisons à la mission que je vais donc essayer d'expliquer devant vous. Raisons qui, je crois, suivent un ordre tout à fait pédagogique et utile pour nous. La première raison de la mission, c'est que Dieu nous l'a demandé. C'est la volonté clairement exprimée de Dieu. Pour dire que c'est un argument de simple autorité. Le décret ne reprend pas les textes où le Christ énonce le mandat missionnaire, notamment à ses disciples, à la fin de l'Évangile. Sans doute qu'il veut impliquer davantage toute l'Église. Et donc, il dit ceci, en résumant l'économie du salut et ses implications pratiques pour l'Église, « Il faut que tous se convertissent au Christ connu par la prédication de l'Église et qu'ils soient eux aussi incorporés par le baptême à l'Église, qui est son corps. Ce texte est important, il nous dit premièrement que la mission ou l'évangélisation, c'est proprement un acte de prédication, c'est par la parole. Deuxièmement, il nous dit que ce mandat du Christ, qui est la conséquence de l'économie du salut, s'adresse à toute l'Église. Et le Concile n'hésite pas à appliquer ce mot de saint Paul. Évangéliser, c'est pour moi une nécessité, à l'appliquer à toute l'Église. Donc, le mandat du Christ, le mandat missionnaire, reste pleinement valable dans une situation où l'Église dit par ailleurs, et c'est sa doctrine officielle, que Dieu peut être connu, Dieu, par des voies connues de lui, peut amener à la foi des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile. Alors, je voudrais d'abord, sur ce premier point, la volonté de Dieu et ce mandat missionnaire, d'abord réfléchir avec vous sur à qui il s'adresse. Il s'adresse dans l'Évangile d'abord aux apôtres, et donc le décret nous dit à la fois que les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, sont les premiers destinataires de ce mandat, mais que cette tâche missionnaire doit être accomplie avec la prière et la collaboration de toute l'Église. Et si l'on va voir un autre texte du Concile, dans la Constitution sur l'Église, on voit que le mandat missionnaire constitue une obligation pour tous les chrétiens en raison de ce qu'on appelle le caractère sacramentel, c'est-à-dire le sceau qui est mis dans notre âme par le baptême, puis par la confirmation. Par le baptême, dit le Concile, les chrétiens sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu. Et un peu plus loin, en raison de la confirmation, ils sont obligés plus strictement, tout à la fois à répandre et à défendre la foi, par la parole et par l'action. Donc, cette nécessité, elle est pour nous tous dès lors que nous sommes baptisés. On peut se demander jusqu'où ce mandat nous oblige. Je fais référence ici à saint Thomas d'Aquin, à qui cette doctrine du caractère sacramentel fait référence, qui fait remarquer qu'un commandement positif, annoncer l'Évangile, à la différence d'un commandement négatif, n'oblige pas en toutes circonstances. Une interdiction ne peut jamais faire ce qui est interdit, mais quand un commandement est positif, on n'est pas tenu de le faire tout le temps et en toutes circonstances. Thomas d'Aquin dit donc que la confession de foi, c'est-à-dire la prédication ou la mission, est obligatoire lorsque l'honneur de Dieu ou l'utilité du prochain le réclame. Il prend deux exemples. Soit quand on m'interroge sur ma foi, alors si je me tais, je nuis à l'honneur de Dieu et au bien du prochain. Ou alors, lorsque la foi du prochain est en danger. Cette deuxième circonstance, je crois, le Concile Vatican II l'a en vue, quand il nous exhorte de manière spéciale à la mission dans les temps présents, je lis le prologue du décret Ad Gentes, « Dans l'ordre actuel des choses, l'Église est appelée de façon plus pressante à sauver et à rénover toute créature. » Sur ce premier point, cette première raison, la volonté exprimée de Dieu, je voudrais m'interroger pour terminer sur l'éventuelle signification positive de cette doctrine qui nous dit que le non-chrétien peut aussi être sauvé. Si je reprends le texte de Pie XII qui en général fait référence sur ce point et que le Concile Vatican II cite, Pie XII dit que le salut est possible sans le baptême dans le cas où on ignore l'Évangile de manière non coupable, par une ignorance invincible. Dans celui qui n'est pas coupable de son ignorance, Dieu peut susciter le vœu implicite du baptême, dit le pape, et ce vœu implicite du baptême repose sur la foi théologale qui, selon l'Épître aux Hébreux, est nécessaire pour plaire à Dieu. Seulement, cette foi théologale, elle n'est pas explicite, elle ne se dit pas dans les mots du credo, elle ne se dit pas, ou pas de manière adéquate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du destinataire de la mission ? Ça veut dire d'abord que son ignorance de l'Évangile peut être soit volontaire, soit involontaire. Et si elle est involontaire, on peut penser que Dieu ne lui a pas encore fait la grâce de la foi, mais on peut aussi penser que Dieu lui a déjà fait la grâce de la foi, mais que cette foi ne s'explicite pas encore. Et donc ça, je crois que c'est important pour le missionnaire, pour interpréter les réactions à l'annonce de la parole de Dieu, de pouvoir faire la différence entre l'hostilité, la perplexité et l'intérêt que peut susciter l'annonce de l'Évangile. Ce n'est pas, et donc ça l'aide à interpréter. Et dans le cas où le destinataire de l'annonce a une foi implicite, ça ne remet pas en question la valeur de l'annonce, parce que l'annonce permet à la foi de s'expliciter, d'être incorporée à l'Église par le baptême. Et comme le dit à la fois le pape Pie XII et puis le Concile Vatican II, le salut devient plus certain par cette explicitation de la foi et cette incorporation à l'Église, devient aussi meilleur, on peut triompher plus facilement à la fois des tromperies du diable et puis aussi du désespoir qui peut naître de la difficulté de la condition humaine. Voilà donc première raison. J'évangélise parce que Dieu me l'a demandé et que ce commandement est toujours valable, même si je sais par ailleurs que Dieu peut sauver sans le baptême. Cette considération du bien du prochain dans l'acte d'évangélisation m'amène à la deuxième raison d'évangéliser. Cette raison, c'est la nature et la vie de l'Église. Le deuxième paragraphe de ce numéro 7 d'Adjentes le dit de manière un petit peu complexe, je vous lis. « C'est par l'activité missionnaire que le corps mystique du Christ rassemble et ordonne sans cesse les forces en vue de son propre accroissement. » Je vous lis d'autres textes qui peuvent être plus faciles à comprendre. Au début du décret, il est dit que l'Église est missionnaire en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité. Et encore à un autre endroit, au début du décret, et c'est peut-être le plus simple, par sa nature, l'Église est missionnaire. Vous voyez, cette raison complète la première. Le mandat du Christ n'est pas ne s'adresse pas à l'Église comme à une réalité extérieure à lui. Le mandat du Christ s'adresse à son propre corps. Et donc ce mandat, il suscite des forces qui lui-même met dans son corps par son Esprit Saint. Le corps, l'Esprit Saint, dit Adjentes, vivifiant à la façon d'une âme les institutions ecclésiastiques et insufflant dans le cœur des fidèles le même esprit missionnaire qui avait poussé le Christ lui-même. Alors, ça veut donc dire que le mandat missionnaire réveille en nous une force, réveille en nous une vie dès lors que nous appartenons à l'Église. Et donc, nous répondons non pas comme à un ordre extérieur, voire arbitraire, mais aussi par un mouvement intérieur. Alors, quels sont ces principes intérieurs de la vie de l'Église? La Constitution sur l'Église les développe pour eux-mêmes en disant que les sacrements et les ministères institués par le Christ communiquent l'ornement des vertus ainsi que les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Vous voyez que dans cette liste, notamment les vertus et les charismes, en fait, la Constitution sur l'Église insiste surtout sur la valeur missionnaire des charismes. Mais le décret sur l'activité missionnaire, je crois, prend les choses de manière plus fondamentale, plus profonde, en rapportant le dynamisme missionnaire à la charité elle-même. Je vous cite, « C'est pour mener à bien l'activité missionnaire que les membres de l'Église sont poussés par la charité. » La charité, vous voyez, c'est l'amour de Dieu. Qui dit amour, dit un mouvement qui part du plus profond de nous, qui suscite un désir qui part de l'intérieur. C'est ce que dit encore le texte. La charité les fait désirer, partager avec tous les hommes les biens spirituels. C'est donc pas seulement en vertu d'une obligation, mais en vertu d'un désir. Alors si la théologie de la mission, en tant que telle, thématisée pour elle-même est assez récente. Je crois qu'on la rattache facilement à cette doctrine qui, elle, est beaucoup plus classique et ancienne, qui sont les œuvres de miséricorde, et notamment enseigner les ignorants. La mission consiste à enseigner les ignorants. Et la charité, parce qu'elle est le le fondement de la vie de la grâce, eh bien, elle amène tout ce qui est nécessaire à une mission qui soit réussie. D'abord, elle amène à communiquer la foi par la prédication. Elle aussi, elle effectue cette mission d'une manière adéquate, avec respect, dans le dialogue. Elle est aussi féconde en charisme pour la mission. Et puis finalement, la charité, elle amène à confirmer la prédication par l'exemple de la vie, ce qui est bien nécessaire pour fonder la foi du prochain. Je crois qu'il faudrait ajouter quelque chose à ce que dit le Concile dans les principes de la mission. Je crois que ce serait de parler de la foi elle-même comme principe de la mission. Saint Thomas dit que la confession de foi est un acte de foi. Et il fait référence à Saint Paul et au psaume qui dit « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé ». Effectivement, lorsque je comprends quelque chose, eh bien, j'ai le désir de le communiquer. Je crois que c'est important de ramener ainsi la prédication et la mission à la foi, parce que ça permet de donner à la prédication ou à la mission sa spécificité dans toutes les activités de l'Église, qui sont certes utiles à la communication de la foi, mais l'acte missionnaire par lui-même, c'est de communiquer la foi par la parole. Je crois aussi que ça nous dit que la mission, elle commence dès le début de la vie chrétienne. On n'a pas besoin d'attendre que la vie chrétienne soit pleinement affermie pour avoir la foi, et donc il est normal que la mission puisse déjà commencé avant même que la vie chrétienne soit affermie. Voilà, dans tous ces actes missionnaires, le principe est intérieur et l'Église, en annonçant l'Évangile, se dispose à la croissance. Ce n'est pas elle-même par sa propre force qu'elle croit, mais elle dispose à sa croissance. Le troisième point complète les deux derniers. Donc j'évangélise parce que le Christ me l'a demandé, j'évangélise parce que la foi ou la charité m'y presse. Troisièmement, j'évangélise pour la gloire de Dieu, c'est la dernière raison que donne le texte. Par cette activité missionnaire, enfin, Dieu est pleinement glorifié. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? C'est la manifestation de sa bonté dans son œuvre, et cette œuvre achevée, c'est l'Église, l'Église du ciel. Alors l'Église pérégrinante, c'est-à-dire ici-bas, coopère à Dieu, avec Dieu pour ce dessein d'amour. Je vous lis ce texte de la Constitution sur l'Église. L'activité de l'Église pérégrinante n'a qu'un but, tout ce qu'il y a de bien dans le cœur et la pensée des hommes, le guérir, l'élever, l'achever pour la gloire de Dieu. En tout cela, voyez que l'Église est un instrument de Dieu qui opère lui-même la croissance de l'Église. Et pour terminer, je voudrais vous donner la clé finalement ultime que nous donne le Concile. Il nous dit que l'Église elle-même est le fruit de ce qu'on appelle les missions divines. Dieu a envoyé son Fils, le Fils a envoyé l'Esprit-Saint, et c'est cela qui a fondé l'Église. Eh bien, la mission de l'Église elle-même est l'effet et la manifestation de ces missions divines. Je crois que c'est vraiment très important, et c'est cela l'explication ultime. C'est donc la mission manifeste le mystère divin que l'Église porte, qui la constitue elle-même. Lorsque Dieu donne sa grâce, eh bien, il manifeste son mystère par l'envoi du Fils et de l'Esprit-Saint. Et donc, quand l'Église exerce la mission, elle manifeste, d'abord pour elle-même, mais aussi pour le monde qui l'entoure, ce mystère divin qu'elle porte en elle par la grâce. Je vous remercie.
Bonjour à chacun. Désolé pour le retard, il y a un petit problème à la gare du Nord. Alors, merci Père Grégoire. Je pensais commencer par justement les processions trinitaires. Tout va bien, donc je vais un peu couper. Mais comme je savais que j'avais affaire à un thomiste, je me disais, ça va venir quand même. Alors, de manière... Hop là, c'est comme ça. Voilà. Alors, première chose, les coordonnées dogmatiques de la mission. Ensuite, je vais aborder rapidement, enfin, plus longuement, un peu rapidement après, la mission qui est mise en question. Et après, je terminerai par un surcroît, celui de la mission aussi, mais qui est du Seigneur. Donc voilà le plan de ce que je vais dire. Voilà. Alors, il y a, me semble-t-il, deux fondements premiers. Je vais pouvoir passer un peu rapidement. Donc le premier, c'est la Trinité, en fait. Le but est l'intégration à la Trinité. Et donc ça dépasse complètement l'homme, étant donné non seulement l'être de l'homme, mais son agir. Donc deux choses. Et comme l'a dit le père Grégoire, eh bien, c'est fonction des personnes divines. Je ne vais pas développer ceci, je souligne peut-être juste ce point-ci, c'est qu'il y a un jeu d'accueil et de don. Si on part du Père, c'est d'abord le don et puis l'accueil de l'amour du Fils en retour. Le Fils accueille le don et se donne en retour. Et puis quand on passe à l'Esprit, il y a encore autre chose. L'Esprit, dans le Père et le Fils se donnent, ils spirent l'Esprit, et l'Esprit se donne en retour. Et si on passe du côté de l'Esprit, eh bien on a ce mouvement qui se rejoue par rapport au Fils. La place de l'homme dans la Trinité n'est pas n'importe laquelle. C'est d'être frère du Christ, fils adoptif du Père et temple de l'Esprit. Et donc, l'homme est appelé lui aussi à se recevoir constamment du Père, avec le Fils, dans l'Esprit, poussé par l'Esprit. Alors cela, c'est un appel à la communion, à demeurer en Dieu, dans son amour. Et c'est mouvement, c'est dynamique, ce n'est pas statique. Si on pense qu'une fois on l'a, eh bien on n'est déjà plus dans le mouvement. Deuxième chose,